Intervenez au 01 45 24 7000. L'invité ce matin, c'est le député de La République En Marche du Val-d'Oise, Aurélien Taché, chargé par le Premier ministre d'une mission sur la politique d'intégration. D'abord, Aurélien Taché, la question de côté de Patricia Martin.
Oui, avec un autre sujet, c'est le dialogue social, puisque vous avez suivi le dossier. Alors, on sait que le président de la République veut aller vite dans ses réformes, qui passent parfois par la voie des ordonnances. Quelle place reste-t-il à l'heure actuelle pour le dialogue avec les syndicats? Vous savez ce que c'est aussi que le syndicalisme, puisque je crois que lorsque vous étiez étudiant, vous étiez président de l'UNEF Limoges. Est-ce qu'il faut inventer un nouveau syndicalisme, avec peut-être des représentants des salariés moins nombreux, avec peut-être des employés qui ne décideraient pas tout? Comment est-ce qu'il faut organiser les choses?
Alors d'abord, nous, dans les ordonnances, effectivement, on a souhaité faire une place beaucoup plus importante à ce dialogue social, puisque un des points forts de ces ordonnances, c'était de dire que tout ne serait plus décidé dans la loi, mais bien soit dans le cadre des branches avec les syndicats, soit dans le cadre de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut certainement pouvoir le réinventer. Par exemple, dans les petites entreprises où vous n'avez très peu de délégués syndicaux, il faut se donner les moyens d'avoir quand même ce dialogue. Alors on a permis pour la première fois, grâce à ces ordonnances, que des accords puissent y être passés avec des délégués du personnel ou par référendum d'entreprise, c'est une des réponses. Mais plus largement, parce que moi je crois qu'on a vraiment besoin de syndicats, il faut que ces syndicats ils puissent certainement aussi aujourd'hui se réinventer. Si je faisais un parallèle, je ferais peut-être avec ce qui s'est passé avec les partis politiques. En Marche a dépassé un certain nombre de clivages, c'est réinventé comme mouvement politique. Et je pense qu'aujourd'hui, les syndicats ont besoin aussi de redonner, de réexpliquer aux salariés tout l'intérêt qu'il peut y avoir à se réinventer.
Oui, parce qu'il y a 10%, je crois, c'est 10% des salariés.
On a un syndicalisme qui est très faible dans ce pays et c'est regrettable. Donc peut-être qu'on a besoin de syndicats qui mutent un peu aussi dans ce qu'ils peuvent apporter comme service aux salariés, peut-être aussi parfois qu'ils fassent un petit peu moins de politique et qu'ils soient un peu plus dans le concret. Et je pense que c'est une des manières de faire. Et après, sur ce qui est du dialogue avec le gouvernement, vous savez que dans les grandes réformes qui vont venir sur l'assurance chômage ou l'apprentissage, cette concertation va reprendre dès la semaine prochaine et toutes les semaines au ministère du Travail. Donc nous, on est très attachés à effectivement continuer à avancer sur les réformes sociales avec les syndicats, parce que c'est bien eux qui sont en première ligne.
Aurélien Taché, député de La République En Marche du Val-d'Oise. On va aller au standard avec une première question de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour monsieur le député. Je voulais vous demander si vous vous sentez bien dans La République En Marche. Je fais partie des retraités qui gagnent guère plus de 1200 euros par mois et qui, à partir du 1er janvier, vont voir son pouvoir d'achat diminuer. Alors vous, qui parlez de syndicalisme, moi je suis né à quelques centaines de mètres de Benoît Frachon. Ce pauvre Benoît Frachon qui a défendu les ouvriers, eh bien il doit se lever de sa tombe. Je trouve ça une injustice flagrante. Et surtout, ne faites pas comme votre ami Castaner, me parler de taxes d'habitation en compensation. Moi je vous parle de baisse, pour la première fois en France, des pensions de retraite des ouvriers, des petits employés. On parle beaucoup, chez vous, on parle beaucoup de solidarité. Alors, monsieur le député, la solidarité, eh bien, les retraités, moi j'en fais partie parce que j'ai encore un enfant à charge, parce que je milite dans les associations. Et dans les associations, c'est un travail gratuit qui est exercé par la plupart des ouvriers.
Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup de ce témoignage sur la baisse des pensions de retraite notamment. Vous entendez ces critiques qui viennent des retraités, Aurélien Taché?
Non, mais j'entends évidemment les interrogations de monsieur et je les comprends, mais je pense que monsieur fait référence à l'augmentation de la CSG, puisqu'il n'est évidemment pas question de baisser les pensions de retraite.
Il y a une hausse de la contribution de la CSG sur les pensions et ça va, c'est l'un des dossiers les plus polémiques sur la sécurité sociale aujourd'hui.
Bien sûr, mais comme monsieur a indiqué le montant de la pension qu'il percevait, je ne pense vraiment pas qu'il sera concerné par cette hausse de CSG qui n'interviendra que pour des pensions qui sont supérieures au chiffre notamment de 1200 euros. Qui vient d'être donné.
Mais je précise pour qu'on comprenne que cette hausse est entrée en vigueur depuis le 1er janvier.
Tout à fait. Et qu'elle est consécutive au fait qu'on ait baissé les cotisations salariales pour l'ensemble des salariés de ce pays, avec l'idée effectivement de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent, parce que notre génération malheureusement n'a pas connu ne connaît pas le plein emploi. emploi, ne connaît pas non plus, enfin, a vraiment une baisse de son pouvoir d'achat quand on est actif, et donc a eu un choix vraiment fait par cette majorité de redonner du pouvoir d'achat, mais il n'est pas question que ça se fasse sur le dos des retraités les plus modestes, et c'est pour ça que cette augmentation de la CSG, elle n'interviendra qu'à partir d'un certain niveau de pension de retraite, et que il y aura effectivement aussi, même si monsieur ne souhaitait pas que j'en parle, je le dis quand même, la taxe d'habitation qui sera supprimée pour 80% des Français, et qui là aussi redonnera du pouvoir d'achat. Donc,
taxe d'habitation qui sera supprimée pour tout le monde en 2020
et qui pourrait être supprimée pour tout le monde à l'horizon 2020 dans le cadre d'une réforme un peu plus globale de la fiscalité locale. Mais dès l'année prochaine, c'est 23 millions de Français qui ne paieront plus un tiers de leur taxe d'habitation. Donc c'est des sujets importants. Moi, je voudrais pas qu'on laisse penser que cette majorité se désintéresse du pouvoir d'achat des plus modestes. Bien au contraire, toute une série de réformes qu'on a prises en augmentant le minimum vieillesse, en augmentant la prime d'activité, en baissant les cotisations ou la taxe d'habitation, c'est justement pour redonner du pouvoir d'achat. Et on n'oublie pas, évidemment pas les retraités et certainement pas ceux qui ont les pensions les plus modestes.
Alors c'est vous également, Aurélien Taché, qui avez remis au goût du jour les emplois francs. Les emplois francs, ce sont des aides financières pour les employeurs qui embaucheront dans les quartiers prioritaires. Emplois francs qui n'ont pas bien fonctionné sous François Hollande. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait mieux avec vous aujourd'hui ?
Alors effectivement, moi je fais partie des députés qui se sont beaucoup mobilisés pour qu'on puisse démarrer les emplois francs sans attendre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin de changer de regard sur nos quartiers populaires. On a dans ces quartiers beaucoup de talents qui ne trouvent pas toujours à s'exprimer, c'est beaucoup de gâchis quand un jeune se dit que c'est plus pour lui. Je crois que c'est ce qui peut arriver de pire. Et donc nous, on veut dire aux entreprises, nous on croit dans les talents qu'il y a dans ces quartiers populaires. Nous on fait confiance à leurs habitants et on vous le prouve avec ces emplois francs, puisque c'est et je viens à la différence, une prime de 15 000 euros qui sera donnée pour à chaque entreprise qui recrutera un habitant de ces quartiers populaires en CDI. La période précédente, quand ça avait été testé, c'était seulement 5 000 euros et il y avait toute une série de conditions.
Il y avait trop de critères sous
François
Hollande.
C'était très compliqué pour les entreprises de s'y retrouver. Là, c'est très simple. Vous recrutez quelqu'un qui habite dans un quartier populaire, vous avez une prime de 15 000 euros sur 3 ans en CDI. Ça correspond vraiment à la conviction qu'on a qu'il y a énormément de talents dans ces quartiers et que malheureusement, à diplôme égal, ils ne trouvent pas toujours un emploi parce qu'en raison de leur adresse postale, ils sont discriminés. Et donc, on dit aux entreprises, faites confiance aux jeunes ou aux habitants de ces quartiers avec cette prime. Et pour ceux qui auraient aussi besoin de qualifications ou de formation, on a aussi des réponses. Donc, voilà pourquoi
donc les emplois francs, c'est aussi un bon moyen de lutter contre la discrimination à l'embauche.
Tout à fait.
Aurélien Taché, député de La République En Marche, vous avez aussi travaillé sur la question des quartiers sensibles. Vous avez vu la semaine dernière cette policière qui a été rouée de coups à terre parce qu'elle a eu le seul tort de porter l'uniforme. Le Premier ministre a dit en réaction qu'il voulait plus de policiers sur le terrain. Là encore, comment est-ce qu'on fait plus comment on donne plus de policiers sur le terrain sans donner plus de moyens financiers ?
Alors d'abord, on a augmenté les effectifs des policiers puisqu'on a financé le recrutement de 10 000 policiers. Après, au-delà,
il n'y aura pas plus de moyens aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Il dit plus de policiers sur le terrain. Ouais. Il n'y aura pas demain plus de moyens.
Non, mais l'autre réponse, effectivement, au-delà de l'augmentation des effectifs, c'est de repenser un peu les missions de la police. Et c'est ce qu'on veut faire avec la police de sécurité du quotidien et la réforme aussi qui l'accompagnera de la procédure pénale en janvier. Je m'explique. Aujourd'hui, les policiers passent beaucoup, beaucoup de leur temps, trop certainement, sur des tâches administratives, sur des tâches, où ils ne peuvent pas être sur le terrain, où ils sont
trop accaparés par l'administration.
Oui, par des tâches un peu bureaucratiques qui leur prennent extrêmement de temps. Et l'une des grandes des choses très importantes dans la police de sécurité du quotidien qu'on veut mettre en place, c'est justement de les décharger d'un certain nombre de ces tâches pour qu'ils puissent être sur le terrain et là où on a besoin d'eux. Et moi, je rappelle que ce besoin de sécurité, c'est d'abord les habitants des quartiers populaires eux-mêmes qui l'expriment. Moi, à chaque fois que je suis chez moi à Cergy dans un de ces quartiers, puisqu'on a des quartiers populaires à Cergy, c'est les habitants qui me disent, mais nous, on voudrait avoir plus de policiers. On aimerait avoir cette police au quotidien sur laquelle on pourrait s'appuyer. Donc ça fait vraiment partie de nos priorités, effectivement.
Cette police de sécurité du quotidien, si on appelait ça à un autre moment, police de proximité, finalement, c'est la même chose.
C'est pas exactement la même chose, parce que la police de proximité, elle était uniquement sur la prévention. La prévention, c'est important, mais on a aussi besoin surtout d'apporter des réponses concrètes sur le plan opérationnel, d'intervention des forces de police qui soient adaptées à chaque territoire. Et la police de sécurité du quotidien, c'est ça son objectif.
Alors, parmi les autres dossiers chauds de la rentrée pour le gouvernement, il y a la formation professionnelle que le gouvernement souhaite améliorer. Ça fait près de 40 ans, en fait, que les gouvernements successifs luttent, et en tout cas ne parviennent pas à réformer cette formation professionnelle engluée dans une tuyauterie administrative. Là encore, comment allez-vous, vous, résoudre l'équation que les gouvernements successifs ne sont pas parvenus à résoudre ?
Alors d'abord, les gouvernements successifs, ils ont toujours dit que la formation professionnelle, c'était important, mais ça s'est rarement traduit en actes parce qu'ils ont rarement mis des moyens dans cette formation professionnelle, et notamment pour ceux qu'on en a le plus besoin et qui sont les gens les plus éloignés de l'emploi ou des jeunes qui auraient décroché. Et nous, c'est vraiment en particulier à ces deux catégories de population qu'on veut s'adresser. Et donc, on le prouve concrètement, puisque dès 2018, c'est 1 milliard d'euros que l'État mais sur la table, hein, pas l'argent qui est géré par les organisations, enfin qui est géré au niveau paritaire, mais bien de l'argent de l'État pour former ces demandeurs d'emploi ou pour former ces jeunes. Donc à partir du moment où l'État met autant de moyens sur la table, c'est normal aussi qu'il puisse sur la manière dont cet argent avoir un regard sur la manière dont cet argent est géré. Et donc c'est ce qu'on fera. Il y aura un rôle de l'État beaucoup plus important dans la gestion de ces fonds. Et ça c'est quelque chose aussi qui n'avait jamais été fait par le passé et qui est extrêmement important puisque effectivement pour toute une pour beaucoup de personnes, en fait, le fait de ne pas accéder à de la formation, ça veut dire pas d'emploi. Et si on a réformé avec les ordonnances cet été pour donner aux entreprises les moyens d'embaucher, il faut maintenant qu'on donne aux personnes les moyens d'accéder à ces emplois. Et c'est ce qu'on fera avec cette réforme de la formation.
Et sur cette réforme, formation et apprentissage, les syndicats ont été consultés. Ils doivent rendre bientôt leur rapport, je crois. Vous attendez quoi de ces syndicats ?
Qu'ils puissent nous dire effectivement quelles sont leurs priorités. Donc oui, il y a une concertation qui se poursuit et comme sur tous les autres domaines qui concernent les partenaires sociaux, on travaille avec eux.
Aurélien Taché, député La République En Marche, on va retourner au standard avec une question de Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre.
Oui, bonjour. Voilà, plutôt que de demander aux responsables de CADA, ce sont les centres d'accueil des demandeurs d'asile, de décider qui des migrants peuvent rester dans ces centres, ne vaudrait-il pas mieux renforcer les équipes de l'OFPRA à Paris qui sont chargées de s'entretenir individuellement et de façon quand même approfondie avec chaque migrant? Voilà, parce que le délai pour ces entretiens est très long, plusieurs mois, parfois même un an. Et la réponse est longue également. Alors, moi, il me semble que l'OFPRA est l'organisme quand même le plus habilité pour prendre des décisions qui concernent l'avenir de ces personnes qui viennent de loin et de pays quand même, donc avec des difficultés, quoi. Il me semble que...
Merci Marie-Pierre. On va écouter ce qu'en dit le député La République En Marche, Aurélien Taché.
Oui, vous avez parfaitement raison. L'OFPRA est bien l'organisme qui doit dire qui peut avoir l'asile ou non. Et ce qui sera vraiment au cœur de la réforme de l'asile qu'on va avoir en début d'année, c'est bien de raccourcir ces délais de procédure. Aujourd'hui, quand on vient demander l'asile en France, il peut se passer 1 an ou 2 ans avant que la personne obtienne la réponse et qu'elle sache si finalement elle va pouvoir construire sa vie dans notre pays. Ça, c'est absolument insupportable. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Le président de la République a fixé comme objectif que 6 mois maximum, la personne puisse être fixée et qu'on puisse ensuite avancer avec elle, soit vers un retour, si ça doit être le cas, soit vers une vraie intégration dans le pays. Et c'est notamment par renforcer les moyens de l'OFPRA, mais aussi dans les préfectures et par raccourcir un certain nombre de délais que ça passe. Donc, je vous rejoins complètement.
Et à propos du calendrier que vous évoquiez, il semble que ce projet de loi asile l'immigration est pris du retard alors qu'Emmanuel Macron veut au contraire accélérer le rythme des réformes. Pour quelle raison ce dossier a-t-il pris du retard ?
Vous savez, on a un nombre de réformes très très important à étudier encore dans ce début d'année. Il y aura la réforme de la formation et du chômage, on vient d'en parler. Il y a la réforme du logement, il y a la réforme de l'asile. Donc voilà, il faut arriver à trouver de la place pour que on puisse étudier tous ces textes à l'Assemblée. Mais je ne crois pas qu'il y ait de raison particulière autre qu'un embouteillage parlementaire.
Et puis si la droite voit plutôt d'un bon œil cette politique migratoire qui est en train de mettre en place le gouvernement, en revanche les associations ne l'entendent pas de la même oreille, notamment à cause de cette circulaire qui permet aux préfets de pouvoir recenser. Est-ce que ça en fait pour autant un dossier explosif, comme on le lit régulièrement. À vos yeux, c'est explosif ?
Non, mais c'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment prendre le temps de la discussion et du travail, mais il n'y a aucune raison qu'il soit explosif si on fait ça correctement. Encore une fois, les objectifs sont clairs, des délais de procédure beaucoup plus courts pour que les personnes puissent être fixées sur leur sort et qu'ensuite on ait soit une vraie politique d'intégration qui se met en place, soit plus de retours dans les cas où l'asile n'est pas donné.
Eh bien, merci d'être venu ce matin sur France Inter.
Merci à vous
Aurélien
de m'avoir invité.
Taché, député de La République En Marche du Val d'Oise et donc, je rappelle, chargé par le Premier ministre d'une mission sur la politique d'intégration. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 8h53.